Alors jusqu'à il y a quelques semaines, je pensais que notre dernier invité était un musicien, un chanteur, simplement un musicien et un chanteur. Et puis un ami qui est dans la salle m'a dit, mais tu sais qu'il écrit des livres super, il a même fait des films, c'est vraiment quelqu'un, c'est un artiste complet. Et puis ma compagne qui est également dans la salle, il y a quelques semaines, me dit, mais j'ai entendu un podcast avec donc cet invité mystère, et il a une histoire de vie incroyable. Donc j'ai écouté le podcast en question et je me suis dit, ok, c'est clairement un candidat pour la veillée, et donc il nous fait l'honneur et la gentillesse d'être parmi nous ce soir. Merci d'applaudir très fort, Mathias Malzieu.
Bonsoir tout le monde. Bon, je vais péter le suspense d'emblée. C'est une histoire de survivant et je suis là. Merci, bonsoir. En fait, il m'est arrivé un truc donc il y a maintenant 5 ans. J'étais en train de réaliser un rêve de gosse. J'adaptais un de mes livres en film d'animation. 6 ans de travail, une expérience extraordinaire, et j'étais au bout de ce sprint émotionnel-là. J'étais en train de le terminer. Et en même temps, j'étais en tournée avec mon groupe de rock'n'roll, et même si j'avais un peu 40 ans, j'avais tendance à me rouler souvent par terre, à faire beaucoup d'efforts physiques. Et puis, j'ai commencé un petit peu à fatiguer. Alors bon, je disais, bon, après tout, je vais avoir 40 ans. Ça fait 20 ans que je fais du rock'n'roll, je fais un film et tout, c'est peut-être normal que je sois fatigué. Et puis quand même, j'étais de plus en plus fatigué. Par exemple, quand je montais un escalier, j'avais l'impression de monter l'Alpe d'Huez un petit peu. Quand je commençais à prendre des douches, j'avais l'impression d'être un haltérophile. Et un haltérophile, comme vous le voyez, qui se muscle pas, mais qui se démuscle. Donc il y avait de l'haltérophilie inversée qui est en train de se passer en moi. C'était pas bien. Puis je blanchissais. C'est-à-dire qu'à côté, Dracula, c'était un mec un petit peu bronzé qui va à la plage à Palavas-les-Flots souvent. Donc, ça commençait quand même à me trotter dans la tête, mais j'étais tellement dans ce souffle, dans cet élan de terminer ce film, que le déni était de rigueur. J'avais aucune envie de me préoccuper de ma santé. Et puis, on a fait un clip avec notre groupe Dionysos juste avant. C'était la chanson du film. Donc, eh ben, il fallait se lever tôt et puis sauter plein de fois comme un adolescent que je ne suis plus tout à fait, que je n'étais déjà plus, pour jouer la chanson, et on refait les prises, etc. Et entre les prises, j'arrive plus à respirer. J'ai l'impression d'avoir, à la place des poumons, d'avoir une paille, de respirer dans une paille bouchée. Donc ça ne marche pas du tout. Et puis personne ne s'en rend compte, ce qui à la fois me réconforte, et en même temps m'effraie encore un peu plus. Mais le lendemain, quand même, je me dis, je vais quand même aller faire petites analyses. Bon, déjà, en allant dans ce petit laboratoire-là, je me fais dépasser à pied par une petite vieille avec un caniche. Pourtant, elle est coiffée exactement comme son caniche. Et son caniche est pourtant très, très bien coiffé. Mais quand même, je me sens un peu vexé parce que moi, je suis là. Et elle est à l'aise. Hein. Franchement, elle me met une pantanie. Elle m'éclate la gueule, mais tranquille. Donc, je fais bon quand même. Bon, je fais mes prises de sang. Les gens, l'infirmière, hyper belle en plus, me donne plein de sucre. Prenez des sucres quand même, vous avez l'air pas bien. Je dis, non, bon, ça va, hein, moi, je vais aller monter mon clip cet après-midi, hein, je suis un peu le malin, tout ça, pour me convaincre de moi-même que je suis toujours dans une vie normale. Et puis donc je rentre chez moi, et j'ai un peu froid et tout. Et puis j'attends, je commande mon taxi pour partir monter ce clip. Et là, je reçois un coup de fil. Bonjour, c'est le docteur Jelperovic. C'est le médecin qui m'avait donné l'ordonnance. En fait, il faut aller vous faire transfuser d'urgence à l'hôpital parce que vous n'avez plus d'hémoglobine quasiment. Donc l'hémoglobine, c'est les globules rouges, c'est ce qui charrie l'oxygène dans le sang. Je ne le savais pas du tout à l'époque. Hein. Là, je fais le malin parce que j'ai dû faire cet arrêt au stand, mais je comprends que c'est des mots qui apparaissent comme des arrivées d'extraterrestres. Hémoglobine, tout ça. Et en fait, il me dit, voilà, normalement, on a entre 14 et 17 mg dans le sang. À 12, on est considéré anémié. À 8, on transfuse d'urgence. Et vous avez 4,6. Donc, vous êtes en risque AVC et arrêt cardiaque maximum, rouge. Ça, bah, moi, j'ai chanté 35 fois une chanson en sautant comme un débile hier. Et fait, bah, vous devez avoir un bon cœur et une bonne santé parce que, franchement, c'est très dangereux. Donc, je peux aller monter mon clip quand même. Non, 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 là, vous allez tout de suite vous faire transfuser. Et donc je raccroche, et là, bon, bah voilà, mon appartement, tout d'un coup, qui pourtant n'est pas très grand, me semble immense. Et donc je commence à regarder un petit peu sur Internet. Il me rappelle. Fait, écoutez, on a deux autres problèmes. c'est qu'en fait, vous n'avez plus non plus de plaquettes. Donc les plaquettes, c'est pas un truc de frein, même si ça ressemble un peu. C'est pas non plus une chanson de Yves Montand, les claquettes, tout ça. C'est un truc qui empêche, qui nous permet de ne pas saigner, c'est-à-dire qui permet au sang de coaguler. C'est des cellules comme ça qui permettent. Et là, il me dit, bah voilà, normalement, il en faut 150 000 et vous n'en avez plus que 17 000. Donc il faut aussi vous transfuser en plaquettes d'urgence. Et puis aussi, on a regardé les globules blancs, donc ça, c'est le système immunitaire, et ben, il n'y en a plus non plus. Donc surtout, vous mettez un masque et vous n'allez pas dans des endroits privés, parce que, publics, pardon, parce que vous risquez d'attraper n'importe quoi. Effectivement, depuis quelques mois, je suis tout le temps malade. J'ai tout le temps des rhumes, des angines, des machins, tout le temps. Et je mets ça sur le compte de la fatigue. Donc je finis par aller aux urgences avec mes petites analyses. Et aux urgences, en fait, il y a trois, comme les trois lois des Gremlins, c'est un peu là. Il y a écrit, vous avez un petit bobo, enfin, ils disent ça mieux que moi, mais enfin, vous avez pas quelque chose de bénin, vous pouvez attendre quelques heures. Vous avez quelque chose d'important, vous serez pris dans la demi-heure. Votre diagnostic vital est engagé, vous êtes pris tout de suite. Et ben, en fait, là, j'ai grillé toute la queue. J'ai donné mes analyses. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est comme ça. Là, je fais, ah ouais, putain, cool. C'est mon nouveau statut est quand même intéressant. Je suis comme une espèce de surfemme enceinte, enceinte de rien et de peut-être ma mort. Donc, c'est la fête absolue. On me perfuse, on me fait des tests de sucre, des machins. Tout le monde me regarde avec des yeux. Et puis, ça y est, je ne vois plus que des yeux. C'est-à-dire que j'ai que des gens avec des masques. Et là, on m'amène donc, on me fait attendre aux urgences. Et là, c'est la cour des miracles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu les urgences. Cochin, tout ça là. Déjà, il y a une dame à côté de moi, comme ça, elle a des jambes et des bras, et elle fait je suis amputé. Je suis ok, on est bien. Il y en a un autre, date de naissance, s'il vous plaît, madame. 8 août 46. Ah, ben non, on a 17 novembre 52. Ben donc, ça n'arrête pas les trucs comme ça. Le temps passe très, très, très lentement, et on vient me poser un patch, un truc autocollant là, ici. Je suis bon, ok. Et puis on vient me chercher, on fait « Bon, monsieur Malzieu, là, il faut monter dans le fauteuil, on vous amène en hématologie. » Je fais « Mais attends, mais je peux marcher, hein. » « Ah non, 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 on nous a dit qu'il fallait monter dans le fauteuil, là. » Bon, je monte dans le fauteuil. Après, ascenseur des malades. Je fais « Non, mais c'est pas mon ascenseur, moi. Je vais monter un clip, là, par contre. » C'est marrant, le truc, là, mais j'ai quand même encore cette espèce de réflexe de vouloir... sentir le vent. Et puis on m'amène dans un truc et c'est une centrale nucléaire. C'est-à-dire que le truc c'est blanc, bleu. Il y a des portes qui font tout le monde est masqué. Et on passe un sas. Et après le sas, on ferme la porte et là on n'entend plus rien. Juste un flux qui fait comme ça. Et là, il y a une bande d'infirmières qui arrive avec des aiguilles, on dirait des stylos bics en métal. Et elle commence à enlever le petit pansement là. Et elles font « Oh là là, ils l'ont collé trop !» Bon, bah tant pis, on n'a plus le temps pour faire l'anesthésie. Et là, en fait, il y a une nana une infirmière, pardon, qui me prend la main et qui me dit « Pensez à une plage ou quelque chose que... » Comment je vais pouvoir penser à une plage alors que j'ai l'impression d'être dans la fin de E.T. quand il ressemble à un truc de... Tout il ressemble à de la farine, là, à la fin, là. On dirait que vraiment il va crever, la fleur elle perd tous ses trucs et tout, c'est l'enfer. Et ben là je suis E.T. quoi, je suis vraiment là-dedans. Et elle veut que je pense à une plage. Ok, et là j'ai un gars qui arrive avec le gros stylo bic comme ça et qui me le plante là comme ça. Ah, mais j'ai l'impression que je vais être dans un western, j'ai une flèche par un indien alors que moi j'ai toujours été l'indien, donc c'est très injuste. Et le pire c'est que c'est pas le plus douloureux. Le plus douloureux c'est quand il l'enlève. Parce qu'en fait il vous enlève une carotte d'os. Comme ça, un truc machin, une gomme quoi, une petite gomme. Petite gomme du bic là, comme ça. Et puis le mec regarde et du coup il fait des petites lamelles comme s'il préparait des radis avec après. Il fait oh là là, votre moelle osseuse elle est transparente. C'est-à-dire que il n'y a plus, il n'y a plus rien dans votre, il n'y a plus de cellules du tout. Donc on va vous dire ce que c'est, mais bon, c'est probablement une leucémie aiguë. Alors je fais ah d'accord. Ok, aigu en plus. Moi, je suis plutôt dans les médiums, hein, d'une manière générale. J'ai la voix grave, tout ça pour ma petite taille. Donc je fais des blagues maintenant, mais sur le moment, j'arrive absolument pas à en faire. Et effectivement, on vient me dire le soir que c'est un équivalent. Alors, ce n'est pas une leucémie aiguë, mais c'est encore plus collector. C'est un truc qui s'appelle l'aplasie médulaire. Donc, l'aplasie médulaire, c'est une maladie rare. Hein. Je suis collector, c'est-à-dire qu'une quinzaine de cas par an, que des vieux ou des enfants, mais moi, non, ouais, ça tombe comme ça. Donc, évidemment, on est un peu en colère de questions, hein, beaucoup. Et puis, on me dit, bon, ben voilà, écoutez, il y a un traitement, c'est la greffe de moelle osseuse. Mais du coup, il faut chercher. Est-ce que vous avez une sœur? Je fais, bah oui, j'ai une sœur. Bon, bah, une chance sur quatre qu'elle soit compatible. Après, vous passez à une chance pour 1 million. Voilà. Donc, ma sœur fait l'examen. Hein. Je vous le passe quand même vite parce que je vois que ça passe le temps. Elle n'est pas compatible. Elle n'est pas compatible. Donc, je passe à une chance pour 1 million. Donc, finalement, ça prend du temps. On me fait une première hospitalisation où on essaye d'enlever mes anticorps. Parce qu'en gros, la maladie, c'est que c'est les anticorps qui ont bugué. C'est comme si je m'étais fait hacker mon système immunitaire. C'est-à-dire, c'est comme si ma moelle osseuse, au lieu de nous. Que normalement, le système immunitaire nous défend contre les virus, là, il a détruit un virus, puis après, il a confondu ce virus avec ma propre moelle osseuse et s'est retourné contre moi. C'est maladie auto-immune, quoi. En gros. Donc, je m'auto-détruis tout le temps. Il dit, le docteur dit, on peut tenter un truc en attendant, voir si on trouve une greffe. On vous éteint le système immunitaire. Comme quand on a un ordi qui déconne et on le débranche, et des fois quand on rallume, il s'est remis bien, tout seul. Bah, en gros, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Et peut-être que les cellules, elles vont comprendre, après quand elles vont se rallumer, qu'elles étaient en train de déconner, qu'il faut retourner se battre contre les virus et pas contre soi-même. Donc, on me fait ça. Donc, on m'enlève les anticorps, donc chambre stérile. Donc, que des gens avec des masques. Je suis transfusé environ 3 fois par jour, environ. C'est là que je commence à écrire un livre qui s'appelle Journal d'un vampire en pyjama. Parce que je me dis, bon, ben voilà, j'ai besoin du sang des autres, donc je suis un vampire. Comme je suis plutôt un gars poli, je ne mords pas les gens. Mais du coup, je commence à travailler sur ce livre pour continuer d'être moi-même, quoi, de ne pas devenir juste un malade ou un truc, un gars ou un corps à qui on fait des examens, mais de rester sur la question de l'identité pour rester un petit peu soi-même. Puis ça ne marche pas. Et puis on trouve, donc je ressors de l'hôpital avec encore plein de transfusions et tout, je suis chez moi complètement avec mes masques et tout. Et finalement, quelques mois plus tard, je rencontre un greffeur qui me dit, écoutez, on peut faire quelque chose pour vous. Ça a été fait seulement 18 fois dans le monde dans votre maladie. Et normalement, on ne le fait que sur les enfants. C'est vous greffer avec du sang de cordon ombilical. C'est-à-dire, c'est quand une femme accouche. Eh ben, normalement, on coupe le cordon et on le jette. C'est un déchet chirurgical. Et là, en fait, quand la maman accepte, au lieu de le jeter, en fait, on le gèle dans l'azote liquide à moins 120 degrés. Et là, il m'annonce que quelque part en Allemagne, il y a une femme qui a accouché il y a 15 ans et dont le sang de cordon était donc conservé dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant ces 15 ans, qui est compatible avec moi. Donc, ça ressemble à la science-fiction. Beaucoup. Et la réalité dépasse la science-fiction parfois. Et ce mec est un coach, quoi. Le mec, il aurait pu gagner la Coupe du Monde avec des joueurs moins forts que l'équipe de France. Le mec est vraiment, il me concerne. Il arrive, il n'est pas dans le blabla, il me motive. Et il me dit, par contre, je sais que vous êtes un peu musicien, là, vous allez faire votre plus gros concert. Là, c'est, vous allez rentrer sur scène, il faut tout arracher, quoi. C'est la moindre des choses. Vous ne pouvez pas faire moins que tout arracher. Vous allez rencontrer des gens extraordinaires, et il avait raison. Mais maintenant, il faut y aller vraiment à fond. Donc, je rentre dans cette greffe. Au jour 5, je fais une hémorragie cérébrale. Donc, je tombe et on ne sait pas comment je me réveille. C'est-à-dire que je tombe et je ne me souviens pas, je me réveille, j'ai la gueule des Bogdanov, j'ai une double fracture du crâne, j'ai un menton, on dirait un pot de yaourt. On ne sait pas pourquoi. Et je ne sais pas comment je suis remonté dans le lit. Ensuite, 3 jours plus tard, je fais une réaction aux plaquettes. Je suis en train de manger des pâtes comme ça. Et d'un coup, j'ai froid, je passe de 37,5 à 41 en moins de 10 minutes. Et je balance des coquillettes comme ça, comme des confettis, dans la chambre, sous le regard pas tout à fait émerveillé des infirmières, qui par contre, que j'appelle les nymphermières, tellement elles sont extraordinairement formidables. Et comme elles ont été ma maison pendant tout ce temps-là, et que je suis admiratif pour l'éternité de ces travailleurs et travailleuses-là. Et puis finalement, petit à petit, eh ben, on commence à trouver des globules rouges et des globules blancs dans mes prises de sang. Petit à petit, ça pousse. Au bout de 11 semaines, où je ne pouvais voir personne. Enfin, si, je voyais, mais que des yeux. Les infirmières arrivent dans ma chambre et elles baissent le masque pour me montrer qu'elles peuvent, être là et parler avec moi. Et alors, c'est magique parce que j'en reconnais pas une. Il faut qu'elles parlent pour que je les reconnaisse. Et pendant cette période-là, j'écris des chansons, et donc ce livre. Et j'écris une chanson où je dis je vais traverser l'Islande en skateboard à moteur, j'ai changé de groupe sanguin. Ah oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit encore. Mais en fait, j'ai changé de groupe sanguin, du coup. Parce que, en fait, comme du coup, la moelle osseuse qu'on m'a trouvée avait un autre ADN, eh ben, j'ai pris l'autre, donc j'étais au plus, je suis à moins. Donc c'est plutôt amusant comme truc. Et j'écris cette chanson parce qu'en plus mon groupe s'appelle Dionysos, et Dionysos ça veut dire né deux fois, parce que d'abord il est né du ventre de Sémélé, puis ils sont un peu pris la tête entre dieux, ils sont un peu engueulés, et du coup Jupiter, Zeus, a dû reprendre Dionysos et le remettre dans sa cuisse pour qu'il finisse son développement, et donc il est né deux fois, d'où Dionysos. Donc moi, né deux fois. Ensuite j'avais fait un autre livre qui s'appelait Métamorphose en bord de ciel, et le personnage c'était un cascadeur. Le plus mauvais cascadeur du monde entier, qui devenait connu parce qu'il tombait toujours très très mal et qui finit à l'hôpital, on trouve une maladie grave, et il s'appelait Tom Hématome Cloudman, et moi j'étais en hématologie. Et puis La mécanique du cœur, le film que je sortais, bah, c'était quand même une histoire de greffe. C'est un personnage qui naissait le jour le plus froid du monde avec un cœur gelé, on lui a remplacé son cœur par une horloge, et sauf que s'il tombait amoureux, ça explosait. Mais du coup ça faisait des liens quand même un tout petit peu étranges. Je guéris de tout ce truc après des péripéties un petit peu nombreuses. Je suis en train d'exploser le temps, donc je vais parler maintenant comme ça. Je vous raconte juste un tout petit peu truc de boucle de fin. C'est que la chanson avec l'histoire du skateboard en Islande, je l'ai fait pour de bon. Je suis parti vraiment en Islande. Je suis allé jusqu'au cercle polaire avec un skateboard à moteur. Je n'ai pas rencontré d'ours. Mais par contre, j'ai rencontré un bélier sur le cercle polaire qui me regardait un peu avec comme Corny Cave, il n'est pas content là comme ça. C'était très impressionnant. Et j'ai fait une sieste. Je l'ai traversé en skateboard, le cercle polaire. J'ai fait une sieste avec les pieds d'un côté et la tête de l'autre côté du cercle polaire, tout seul. Et puis là, il vient de m'arriver un dernier truc dingue. Ça va durer 30 secondes. C'est juste que j'ai fait des conférences sur ce livre, un petit peu les ambassades, les alliances qui m'avaient invité. Et je me retrouve en Allemagne. Et entre deux bananes et un Mars, il y a une petite enveloppe. J'ouvre l'enveloppe. Et il y a écrit bonjour, je suis la directrice de l'hôpital de Düsseldorf. C'est moi qui ai trouvé votre sang de cordon. J'ai lu votre livre. Et comme vous avez mis, parce qu'au moment où je parle de la poche qui vient de m'être greffée, il y a un nom de code qui est le nom de code en fait de la mère. Ben, j'ai mis le vrai nom de code. Et elle me fait, ben, du coup, j'ai tapé sur l'ordinateur et j'ai retrouvé la mère. Et non seulement je l'ai retrouvée, mais en plus je la connais parce qu'elle vient souvent donner son sang à l'hôpital. Oui, et bien calé le hibou. Et du coup, je fais waouh, c'est quand même un peu impressionnant comme truc. En France, c'est totalement interdit, parce que c'est anonyme et gratuit, ces dons-là. Mais en Allemagne, après 2 ans avec un consentement, on a le droit de se rencontrer. Du coup, là, le 16 mai, je pars en vélo électrique de Paris jusqu'à Düsseldorf. Je fais les 540 km, 80 km par jour. Je la rencontre ainsi que son fils qui maintenant avait 19 ans à l'époque, 15 ans à l'époque, a 19 ans maintenant, a exactement le même ADN que moi, parce qu'on est, on était liés par le même sang de cordon. Je les rencontre, je leur offre le vélo, je fais le bisou et je rentre en train. Merci beaucoup.